Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Les températures vont redescendre pour que l'on ait un véritable automne et non pas cette espèce d'été qui joue les prolongations. Les arbres sont très fatigués et si la chaleur perdure, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, nous n'aurons pas ces semaines d'automne flamboyant et les feuilles vont tomber parce que les arbres ont besoin de libérer de l'énergie avant de s'endormir, de s'ensommeiller à l'approche de l'hiver. Mais nous n'en sommes pas là, je brûle les étapes. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui m'a énormément intéressée, sur lequel j'ai beaucoup écrit et qui a été très souvent au cœur des accompagnements que je mène en tant que sophrologue. Il s'agit du pardon. Alors le pardon est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre dans tous les sens du terme, couler beaucoup d'encre chez les théologiens, les philosophes, les psychologues, les psychanalystes, les écrivains, et aussi beaucoup d'encre dans les familles, notamment quand on n'arrive pas à trouver le chemin qui mène au pardon. J'ai relu des textes que j'avais écrits ces dernières années, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des événements très durs que j'ai traversés. Alors voilà, nous sommes très nombreux à avoir traversé des choses difficiles, à nous être heurtés de plein fouet à des gens que nous aimons et à nous être demandé s'il nous serait un jour possible de pardonner. Alors pardonner a deux visages, hein, bien sûr. Donc il y a le fait de pouvoir pardonner à une personne qui a conscience, qui a pris conscience qu'elle nous avait fait du mal, qu'elle nous avait blessés. Et puis il y a aussi la capacité que nous devons trouver, nous, de savoir reconnaître justement que nous avons fait du mal à quelqu'un par nos paroles, par nos actions, ou alors justement parce que nous n'avons rien dit ou parce que nous n'avons rien fait. Donc il y a les deux visages. Le pardon a ces deux visages, c'est demander pardon et aussi savoir s'ouvrir au pardon de l'autre. Demander pardon ne doit pas devenir à nouveau un moment d'orgueil où on se dit « voilà, je pardonne ». Dans ma grande générosité, je pardonne à l'autre, donc je lui suis supérieure, c'est pas ça du tout. Le pardon se situe vraiment à un autre niveau. En fait, j'ai cru que je n'arriverais pas à trouver en moi le chemin du pardon parce que durablement, j'ai été confrontée à des personnes qui n'avaient pas conscience ou qui refusaient de prendre conscience de ce qu'elles avaient pu me faire du mal. Alors là encore, hein, nous sommes nombreux à être dans cette situation. Donc c'était difficile parce que je me disais, alors comment je fais? Parce que je suis face à des personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, peut-être parce qu'elles ne sont pas encore à ce niveau de leur cheminement, elles ne peuvent pas reconnaître qu'elles m'ont blessée. Et moi je fais quoi? Est-ce que je ne les vois plus? Est-ce que je vais réussir à pardonner? Et finalement on réussit. Alors c'est ce qu'on appelle aussi la résilience, cette capacité que nous avons à trouver en nous la force de pardonner aux autres quand eux ne viennent pas nous demander pardon. Et en fait, on croit longtemps qu'on n'y arrivera pas et puis en fait, on se rend compte qu'on y arrive. Alors, ce qui est très complexe, c'est quand on est blessé de manière récurrente par une ou des personnes qui en fait ne font pas de retour sur elles-mêmes. Finalement, vont nous blesser toujours de la même manière. Et à aucun moment, on va pouvoir leur dire qu'elles nous ont blessés. Puisqu'en fait, elles sont complètement fermées à toute explication. La porte est toujours fermée. Ou alors, quand on essaie d'entrebâiller la porte, alors ça donne des choses du style « oui, voilà, tout est de ma faute, je suis une méchante personne ». Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que celui qui a essayé d'engager le dialogue se retrouve automatiquement culpabilisé par celui qui en fait ne veut pas amorcer un échange en profondeur. Alors il y a longtemps, hein, en fait c'était en 2014, j'ai écrit un texte, hein, alors donc il y en a plusieurs, mais C'est celui que j'ai retrouvé où j'évoque le sujet du pardon, qui est vraiment un sujet passionnant. Et donc oui, j'avais écrit ce texte le 2 août 2014. Alors je vais vous le lire. Quand on a grandi dans une famille chrétienne à option catholique, on a beaucoup entendu parler du pardon. Nous étions très jeunes quand il nous était demandé de savoir trouver en nous la force de pardonner à l'autre le mal qu'il nous avait fait en pensée, en parole, par action ou par omission. On nous exhortait à prier Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés. Au cathé, je me rappelle ces moments où nous attendions assis sur une chaise avec dans les mains une feuille sur laquelle nous avions écrit la liste de tous nos péchés d'enfant. Disputes, mensonges, petits larcins, tricheries, méchanceté, refus d'obéir, jalousie. Très contrariée, ayant brutalement l'impression que notre âme était aussi noire que le visage de Méphisto, nous nous approchions du Père. Je suis certaine que nous avancions vers lui le cou rentré dans les épaules et que nous osions à peine le regarder dans les yeux. Nous lui chuchotions la liste de nos vilaines actions. Il prêtait l'oreille et ne disait rien. À la fin, il nous bénissait et nous étions absous. C'était magique. Nous nous sentions vraiment lavés, nos âmes et nos corps étaient propres. Nous pouvions repartir légers dans la vie. Nous ferions de mieux, de notre mieux, pour ne pas recommencer. Les temps avaient déjà changé. On ne nous demandait pas de dire notre Père, va notre Père et dites je vous salue Marie, encore moins de nous flageller ou de marcher sur les genoux du puits envelé à Saint-Jacques de Compostelle pour expier nos fautes, sortir de nous le vilain. On nous faisait confiance. Dans ma famille, bizarrement, les adultes n'aiment pas trop se confesser. Je pense que l'idée de plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour sonder leur rein et leur cœur les angoisses, qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient y trouver et que leur orgueil est un frein à l'acceptation de leur faiblesse. Ils sont passés maîtres dans l'art de minimiser les affrontements, de faire comme si tout allait bien. Leurs parents, c'est-à-dire nos grands-parents, n'ont jamais exprimé un regret ou un remords vis-à-vis d'eux. Ils ne voient pas pourquoi ils devraient agir différemment avec leurs enfants. Ce refus de s'analyser, de prendre le temps de réfléchir et éventuellement de reconnaître ses erreurs pour en demander pardon à ses enfants n'est pas réservé bien sûr à ma seule famille, c'est quelque chose d'assez banal. Cette attitude est largement répandue et nous sommes nombreux à en souffrir. Encore plus, quand nous essayons de les prendre par la main pour les aider à voir plus clair en eux et trouver la voie qui nous mènerait ensemble à une relation apaisée. Je constate qu'à ma génération, je précise que je suis née en 1969, nous sommes un certain nombre à avoir fait le job, pour reprendre les termes d'une psychologue clinicienne, avoir ouvert le capot, plongé sans filet dans les arcanes du moteur, durablement pataugé dans le cambouis, pour en ressortir, pas forcément guéri, mais armé pour nous construire en liberté et renoncer. Le plus dur étant d'accepter l'idée que nos parents ne pourraient pas se réformer et qu'ils ne nous laissaient qu'une seule voie étroite, les prendre tels qu'ils sont, et puiser au plus profond de nous-mêmes pour leur pardonner leurs maladresses, leurs incompréhensions, leur silence, leurs injustices, leurs préférences, leurs refus, parfois de nous laisser nous réaliser en empruntant la route qui est nôtre, de nous en vouloir de réussir là où ils n'ont pas réussi, de projeter sur nous leurs rêves, d'avoir le sentiment que nous les trahissons, car nous faisons d'autres choix que les leurs, que nous réussissons à trancher des liens qu'eux n'ont pas pu trancher, de penser que pour nous, tout est facile. Ce qui est plus facile, et c'est une évidence, c'est que la plupart d'entre nous n'a pas redouté de pousser la porte du cabinet d'un thérapeute pour s'épancher, tuer symboliquement bien sûr père et mère, apprendre à décoder ses rêves, réfléchir au poids des ancêtres sur les répétitions, des schémas, pour trouver des solutions. Certains ont fait le choix de thérapies longues, d'autres ont été vers des thérapies brèves. Certains ont exprimé les retraites, la méditation, ce nouveau marché de l'émotion, pour reprendre l'expression de deux sociologues. Certains s'inscrivent dans la droite ligne de leurs parents en refusant catégoriquement de faire un retour sur eux-mêmes. Plus le temps passe et plus ils ressemblent à leurs parents, et cette ressemblance va leur permettre de leur pardonner. Certains encore ont attendu de celui ou de celle qui les accompagnait l'aide nécessaire pour redéfinir les contours de leur relation avec leurs parents. Certains compagnons s'érigent en sauveurs, en conscience ou inconsciemment, D'autres jouent à leur corps défendant un rôle de rempart. Nous sommes vraiment la génération qui lutte pour continuer le travail entamé par la génération précédente. Ce qui nous anime, c'est la recherche d'une relation apaisée, apaisante avec nos parents, avec nos conjoints et avec nos enfants. Nous reconnaissons plus facilement nos erreurs auprès de nos enfants. Nous savons leur parler pour dénouer les crises et nous excuser si nous les avons blessés. Nous les écoutons davantage et ce qu'ils ont à nous dire nous fait parfois davantage avancer qu'une année d'analyse. Nous n'avons pas peur de nous réformer, car le monde qui est le nôtre est soumis à des mutations permanentes, de profondes ruptures. Nous appartenons à la génération qui vit la fin d'un modèle économique, la fin des repères traditionnels avec le mariage pour tous qui débouchera sur l'adoption et au recours de toutes les techniques d'assistance médicale à la procréation et en son sein à la gestation pour autrui. Je précise aujourd'hui, puisque nous sommes en 2023, que nous vivons aussi, malheureusement, les conséquences dramatiques du dérèglement climatique provoqué par des siècles d'abus en tout genre s'agissant des ressources naturelles. On a tout et tous à gagner, à pardonner, car le pardon libère, apaise et permet d'aller de l'avant. Le ressentiment et la colère sont deux poisons qui gangrènent les êtres. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner devient chaque fois plus complexe quand on se heurte encore et encore aux mêmes reproches, aux mêmes refus d'entendre, et qu'on est toujours perçu comme celui qui est la source de tous les problèmes. Pardonner est difficile quand on ne se sent pas compris. Prisonnière d'un besoin d'harmonie fort, incapable de renoncement, il m'est arrivé d'accorder mon pardon trop vite. En fait, c'est une erreur. Le pardon est précieux, il est un cheminement. C'est à ce prix qu'il a du sens, qu'il prend tout son sens. Alors voilà, ce pardon a été et est très souvent un sujet lors des séances avec mes patientes et mes patients. Et alors un exemple qui illustre ce refus de finalement d'aller dans le pardon et aussi de se transformer, je l'ai vécu avec un patient qui est mort maintenant, un monsieur. Qui aurait pu être ce grand-père que ma sœur et moi n'avons pas eu, un monsieur que j'apprécie énormément, un grand chrétien. Et en fait, quand ses parents étaient morts, ils étaient 5 dans sa fratrie, les parents étaient morts sans prendre de disposition testamentaire. Et ça avait provoqué vraiment de très très gros problèmes au sein des frères et des sœurs. Mais vraiment, ça avait été très très difficile. Donc là, ça avait été un héritage qui avait servi de détonateur ou plutôt de révélateur de problèmes plus profonds, de la manière dont les parents avaient aimé ou pas les enfants, les différences, aussi comment, là où chacun en était dans sa vie, comment il avait réussi ou pas au moment où les parents étaient morts. Et malgré tout, ce monsieur, sa sœur et ses frères avaient réussi à s'en sortir. Et donc il avait déjà un certain âge hein, quand il venait me voir, et il venait me voir pour que je l'aide à accepter sa vie sans sa femme, qu'il avait été contraint de confier une maison de retraite puisqu'elle s'abîmait de plus en plus dans la maladie d'Alzheimer. Ce monsieur avait des enfants, et il y avait dans cette fratrie également beaucoup de tensions, des tensions très fortes. Et je lui disais, mais ce serait bien, vous voyez, que voilà, vous ne fassiez pas comme vos parents, que vous organisiez votre succession pour que le moment venu, ça se passe bien pour vos enfants. Et il me répondait, non, ils se débrouilleront, ils feront, comme ma fratrie et moi quand nous avons perdu nos parents. Voilà, et j'ai essayé, j'ai essayé à plusieurs reprises de l'amener à reconsidérer son choix et je pense qu'en fait il est parti, sans rien faire. Et donc, il a sans doute provoqué beaucoup de désordre entre ses enfants, qui étaient déjà englués dans des relations difficiles. Et je pense que s'il a pris cette décision, c'est parce qu'il espérait que sa mort serait pour eux l'occasion finalement de se pardonner les uns les autres et de se réunir. Donc, nous avons tous vécu des situations difficiles liées au pardon, savoir comment se situer par rapport à l'autre quand il nous a blessés, Trouvons-nous le courage d'exprimer ce qui est compliqué? Et que faire quand, même si ce courage est là, l'autre n'a pas envie d'entendre lorsque la porte reste fermée? C'est triste de voir des familles qui sont complètement coupées en deux par des tensions, par des difficultés à se dire les choses. C'est vraiment désolant. Après, parfois, voilà, quand c'est trop compliqué, il faut être capable de se dire, bon, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ça ne marche pas. On n'est pas condamné à toujours devoir aller vers les autres, mettre de côté ce qui est important, trouver la voie du pardon. Il faut quand même que ce cheminement, on soit deux dans ce chemin. Voilà, mon épisode n'est pas très long ce matin. Il sera peut-être pour vous l'occasion de réfléchir à ce sujet. Alors, ce ne sont pas les livres qui manquent pour continuer cette réflexion. En tout cas, une chose est certaine, c'est quand on arrive à pardonner, parfois même sans que l'autre le sache, on se sent quand même beaucoup mieux. Et donc, j'insiste sur le fait que pardonner, ce n'est pas oublier. On se construit avec ce qu'on a vécu, mais on va de l'avant. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous remercie de m'avoir écouté, enfin aussi peut-être une douce nuit si vous m'écoutez le soir. Et je vous dis donc à la semaine prochaine et vous souhaite une agréable fin de semaine.